7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Alors que se termine notre quatrième semaine confinée, un premier point d'étape s'impose avec de l'espoir parce qu'en 4 semaines, de nombreux essais cliniques ont été lancés partout en France, nous mettant sur la piste de remèdes possibles. Bonjour Axel Kahn.
Bonjour.
Vous êtes président de la Ligue contre le cancer, médecin généticien. Vous avez également publié de nombreux ouvrages sur l'éthique médicale et scientifique. Et à propos d'éthique médicale et scientifique, hier a eu lieu une visite surprise d'Emmanuel Macron au microbiologiste Didier Raoult. Alors, Didier Raoult partage les Français. À quel camp appartenez-vous, Axel Kahn ?
Je n'appartiens à aucun camp. Le seul camp auquel j'appartienne est celui de tous les Français et d'ailleurs de tous les citoyens du monde qui espèrent qu'un traitement dont l'efficacité sur la pneumopathie virale au Covid-19 sera avéré, sera validé. Et par conséquent, les travaux, les essais, les propositions de l'Institut hospitalo-universitaire de la Méditerranée à Marseille, dirigé par le professeur Didier Raoult, comme tous les autres essais, m'intéresse. Donc vous voyez, ce n'est pas une affaire de camp. D'ailleurs, je vais vous dire, puisque vous avez dit, et c'est tout à fait réel, que depuis très longtemps, je m'intéresse aux problèmes éthiques. Qu'une question de l'ordre de l'appréciation de l'efficacité d'un essai clinique soit un objet de polémique quasiment idéologique, quasiment politique, c'est simplement totalement effarant. C'est abracadabrantesque. Et donc, je ne me situe pas dans cette ligne-là.
Bon, ben, je vais quand même vous embêter à ce sujet. Est-ce que l'on reproche, notamment, semble-t-il, aux essais du professeur Raoult, c'est l'absence de groupe contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'administration de placebo à des malades. Mais administrer un placebo à des malades, ça pose quand même de nombreux problèmes éthiques dans le cas d'une épidémie telle que celle du coronavirus, Axel Kahn.
Non, je crois qu'on ne peut pas dire cela. Vous savez, dire cela, c'est faire une marche en arrière considérable dans le domaine de la réflexion morale et éthique sur les essais cliniques. Évidemment, quand on est persuadé de l'efficacité d'un traitement, eh bien, évidemment, on ne fait pas de groupe témoin. L'exemple que l'on donne, qui est caricatural, c'est qu'on ne fait pas de groupe témoin entre sauter d'un avion avec un parachute et sauter d'un avion sans parachute. Mais dans tous les cas où on ne sait pas si un traitement est efficace ou n'est pas efficace, et à risque ou n'est pas à risque, alors la seule possibilité d'avoir rapidement une réponse à cette question, c'est de faire une étude qui, le plus rapidement possible, est susceptible de donner des résultats. Toute autre méthode va prolonger l'incertitude et va avoir des effets néfastes, in fine, pour toutes les personnes qui attendent des résultats de cette étude thérapeutique. De ce côté-là, il s'agit d'une méthode, d'une réflexion qui a fait faire des progrès considérables à la médecine dans le monde entier. On appelle ça la médecine basée sur les preuves. Avant, c'était la médecine aux doigts mouillés. Eh bien, je vais vous dire, la médecine basée sur les preuves permet d'obtenir des résultats plus rapidement que la médecine aux doigts mouillés.
Autre question. Aujourd'hui, la recherche est allée très vite au sujet du coronavirus et on semble aujourd'hui réaliser qu'une bonne partie des malades qui sont actuellement en réanimation de moins de 65 ans sont des personnes en surpoids. Comment expliquer ce fait, Axel Kahn ?
C'est tout à fait réel et il y a sans doute plusieurs événements qui l'expliquent. Un premier élément est que la gravité principale, c'est pas la seule, hein, mais la gravité principale de cette maladie est une pneumopathie extrêmement sévère et même un syndrome de détresse respiratoire. Hors de notoriété publique, la capacité respiratoire des personnes en excès pondéral, des personnes obèses, est diminuée. Et donc, étant diminuée, s'il y a une amputation liée à la maladie, ils sont plus rapidement dans le versant de l'alerte. Deuxième élément, l'obésité en elle-même est un facteur, on va dire, d'inflammation. Les cellules adipeuses, on le sait bien, on peut considérer d'une certaine manière que l'obésité est une maladie inflammatoire. Or, l'aggravation de l'évolution de la maladie au 7e ou 10e jour, elle n'est plus directement liée aux méfaits à l'influence, à la dégradation des cellules par les virus qui infectent ces cellules, elle est liée à une réponse inflammatoire extrêmement exagérée, peut-être lorsqu'apparaissent les premiers anticorps. Eh bien, on peut comprendre, si vous voulez, qu'une personne qui a une capacité respiratoire déjà diminuée du fait de l'obésité, d'autre part qu'un tonus inflammatoire qui est plutôt augmenté du fait de l'obésité, soit plus sensible à ce moment-là à ces mécanismes de l'aggravation, insuffisance respiratoire et orage cytokinique, c'est-à-dire libération de médiateurs de l'inflammation qui entraînent l'essentiel de la gravité à ce stade de la maladie, de l'affection.
Et alors, lorsque l'on essaye de comprendre comment fonctionne cette surréaction du système inflammatoire et du système immunitaire, Axel Kahn, et il y a, semble-t-il, un lien, par exemple, avec d'autres organes que le poumon, par exemple, le foie.
Oui, effectivement. En fait, on sait aujourd'hui que le virus se fixe tout d'abord à des glucides qui sont à la membrane des cellules, et puis son vrai récepteur est une enzyme, une protéine de la membrane, c'est une enzyme, mais peu importe, il ne semble pas que son activité enzymatique ait à voir avec le schmilblick, comme on dit. Cette enzyme, la CE2, n'est absolument pas localisée uniquement au niveau des cellules ciliées du pharynx ou bien des bronches. On en trouve également au niveau du système nerveux central et en particulier, vous savez, il y a un signe qui a été décrit très bien qui est la perte du goût et de l'odorat, agueusie, anosmie. C'est lié au fait que le virus qui infecte les fosses nasales remonte par le bulbe olfactif vers les noyaux centraux de la base du crâne et entraîne cela. Et il y a des signes neurologiques, il y a même peut-être des morts subites par atteinte bulbaire qui pourraient être liées à cette progression rétrograde du virus. Et puis le virus, il attaque également le foie, le rein, et donc en réalité, cette maladie n'est pas simplement une pneumopathie virale. Dans 85%, il s'agit d'une maladie jamais totalement bénigne, mais enfin, on va dire d'une grippe un peu forte, qui laisse tout de même sur les rotules, mais dans 15% des cas, il s'agit d'une maladie générale extrêmement grave, dont le facteur principal de mortalité est certainement l'atteinte pulmonaire, évidemment, mais qui entraîne également des atteintes digestives, neurologiques, rénales, hépatiques. C'est une maladie générale dont la sévérité nous a surpris. Moi, j'avais bien prévu l'évolution de cette épidémie très tôt, en réalité. J'ai une certaine familiarité avec les épidémies. En revanche, par rapport à ce qu'avaient dit nos collègues chinois, j'ai été surpris par la grande gravité des formes sévères de cette maladie.
Et alors justement, comment expliquer cet écart? Est-ce que les informations venues de Chine étaient incomplètes, Axel Kahn?
Alors, je ne sais pas. Il faudra faire le bilan. Il y a plusieurs explications. Celle que vous dites en est une. Une deuxième, c'est qu'il y a des différences génétiques de susceptibilité. On sait très bien que même la susceptibilité à des maladies infectieuses ne nous rend pas tous égaux par rapport à ces agents infectieux. Et que, d'une certaine manière, il y a toujours une composante génétique dans la susceptibilité aux maladies infectieuses. Donc, il se pourrait que les populations asiatiques fussent plus résistantes. Et la troisième hypothèse, elle n'est pas du tout prouvée, c'est une élucubration dans mon esprit, c'est qu'il y a eu plusieurs poussées de maladies à coronavirus, notamment COV1, la maladie de 2003, en Chine et en Asie, en Corée, à Singapour, depuis des décennies. Et quoique il n'y ait pas d'immunité durable et absolue, il se pourrait que ces épisodes antérieurs aient laissé un faible niveau d'immunité protectrice, expliquant que globalement, le bilan est bien pire hors d'Asie qu'en Asie.
La question génétique, est-ce qu'il y aurait des marqueurs génétiques, Axel Kahn, qui permettraient d'expliquer alors non seulement donc la susceptibilité au coronavirus, à ce coronavirus, ou bien plus largement, par exemple, le fait que certaines personnes soient plus sujettes à des infections, je ne sais pas moi, à la grippe par exemple, qu'en pensez-vous?
Tout d'abord, il y a des marqueurs génétiques qui expliquent l'augmentation de la susceptibilité à toutes les maladies infectieuses. Un des grands chercheurs français qui partage son temps entre la France, l'Université de Paris et New York, Jean-Laurent Casanova, a démontré que les maladies infectieuses pouvaient être vues d'une certaine manière comme des maladies génétiques. Et ça doit être vrai aussi du coronavirus. du COV2, en l'occurrence. Ce que l'on sait aujourd'hui, car on n'a pas encore fait beaucoup d'études, on est totalement focalisé aujourd'hui dans le traitement de l'urgence, vous voyez bien.
Bien sûr.
Mais ce que l'on sait déjà, c'est qu'il y a une relation avec les groupes sanguins. C'est-à-dire que les groupes O et les groupes A n'ont pas la même susceptibilité. Autant que je me le rappelle, c'est peut-être l'inverse, mais je crois me le rappeler, les groupes O doivent être un peu plus résistants que les groupes A. On n'est pas étonné parce que le groupe sanguin, ce sont des glucides, des carbohydrates comme on dit, qui décorent la membrane des cellules, notamment des globules rouges. Et je vous ai dit que la première interaction du coronavirus se faisait avec des glucides de la membrane. Mais on trouvera d'autres corrélations, il n'y a aucun doute. C'est un facteur totalement général de toutes les maladies infectieuses.
Mais alors, comment expliquer ? Donc, vous dites qu'il y a une différence de réaction en fonction du groupe sanguin. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait la possibilité d'expliquer pourquoi, plus généralement, vous dites qu'on n'est pas égaux face aux infections ? Il y a peut-être la possibilité de revoir l'histoire des individus, des peuples, par rapport à leur résistance successive aux épidémies, Axel Kahn ?
Ça n'est pas une résistance générale. C'est souvent une résistance à certains agents infectieux. Vous savez, les agents infectieux, qu'il s'agisse des parasites ou bien des microbes ou bien des virus, ce sont des rusés. Et donc, ils utilisent toute une diversité de moyens pour infecter les cellules ou infecter le corps, des récepteurs, comme l'on dit, pour les agents qui sont intracellulaires, ils se fixent d'abord à des récepteurs qui se trouvent à la surface des membranes, puis rentrent dans la cellule. Et dans chacun des cas, il peut y avoir une distribution qui est différente suivant les ethnies, par exemple, des facteurs de susceptibilité. Donc, ce n'est pas un facteur général. Non, il n'y a pas, on ne connaît pas dans le monde des secteurs de population, des peuples qui seraient extraordinairement résistants aux maladies infectieuses. Mais pour une maladie infectieuse donnée, oui.
Axel Kahn, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer d'évoquer ce coronavirus et notamment les problèmes éthiques qu'il pose.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et pour faire ce point d'étape sur nos connaissances, nous sommes en compagnie d'Axel Kahn. Axel Kahn, vous êtes président de la Ligue contre le cancer, vous êtes médecin généticien et vous êtes beaucoup intéressé à l'éthique médicale et scientifique. Aujourd'hui, s'il s'agissait de dire quelles sont les pistes thérapeutiques contre la Covid-19, que diriez-vous, Axel Kahn ? Quelles sont ces pistes qui vous paraissent les plus prometteuses ?
Les pistes les plus prometteuses, dans l'ordre, c'est tout d'abord la prévention par la vaccination. Je n'ai aucun doute que l'on va arriver à développer un vaccin. Je ne sais pas exactement dans quel délai, mais en règle générale, c'est une technique, une technologie, une manière de faire qui est bien maîtrisée. Il y a déjà plusieurs dizaines de candidats vaccins qui sont en train d'être testés. Et je fais le pari, le pronostic optimiste, mais pas trop quand même, que d'ici, on va dire, l'hiver prochain, le début de l'année 2021, il y aura un vaccin. C'est important parce que cela évitera qu'il y ait une récurrence annuelle de ces épidémies, comme cela s'est passé pour la grippe espagnole. Vous n'étiez pas né, moi non plus, mais on connaît l'histoire. La grippe espagnole a commencé à la fin de la guerre, en 1918, et puis elle a continué en 1919 et encore en 1920. Alors, je n'aimerais pas que l'épidémie de SARS, de syndrome aigu respiratoire sévère, connaisse une récidive, une nouvelle poussée l'année prochaine et dans 2 ans. Donc ça, le vaccin devrait permettre de l'éviter. Maintenant, le traitement lui-même, il est plus incertain. Parlons de l'hydroxychloroquine, le traitement par conséquent qui a été proposé au départ par des Chinois et qui a été repris et utilisé et qui est testé par le professeur Didier Raoult. Ça n'est pas un antiviral à proprement parler. Il s'agit d'une substance qui modifie le métabolisme de la cellule. Or, comme les virus rentrent dans la cellule et vont parasiter le mécanisme, la machinerie cellulaire pour fabriquer leur propre substance, pour faire fabriquer par la cellule des particules virales, cette modification du métabolisme des cellules pourrait éventuellement diminuer effectivement la fabrication des virions. Mais comme je vous l'ai dit, honnêtement, quand on regarde toutes les études du monde, ça n'est pas encore avéré. Ensuite, on peut s'opposer un peu à tout en matière de lutte contre les virus, de médicaments antiviraux. Mm-hmm. On peut s'opposer à la pénétration ou bien on peut s'opposer au recopiage du génome, à l'expression du génome du virus, etc., etc. Et honnêtement, il faut vraiment mener des recherches tous azimuts. Aujourd'hui, on est totalement incapable de dire ce qui marchera le mieux. Ce qu'on commence à faire aujourd'hui, c'est tester des vieux médicaments actifs sur vieux, pas toujours vieux, mais enfin actifs et mis au point pour être actifs sur d'autres virus. Est-ce que par hasard, ils seraient également actifs sur coronavirus ? Si ça n'est pas vrai, aujourd'hui, on n'a pas d'éléments très optimistes, je dois dire. Si ça n'est pas vrai, ben, il faudra trouver un médicament spécifique de ce COVID-2 qui nous fait tant de peine à l'heure actuelle.
Mais alors, vous êtes relativement optimiste pour un vaccin Axel Kahn, mais si on prend par exemple une autre grande épidémie, je pense à l'épidémie de sida, on n'a pas trouvé de vaccin, en revanche, on a trouvé des thérapies.
C'est vrai, c'est un peu le contre-exemple. Mais on savait pour le virus du sida que ce serait très très difficile. Parce que le virus du sida, il attaque les cellules immunitaires qui sont chargées de développer l'immunité contre le virus du sida, vous voyez ? Donc lui, il est particulièrement vicieux. Mmh. Et on savait très bien qu'un virus qui est un ennemi, un poison du système immunitaire, ça ne serait pas coton de développer un vaccin contre lui. Contre le coronavirus, il appartient à une famille de virus qui est moins problématique de ce point de vue-là. Et personnellement, c'est un pari, je ne suis pas sûr, hein, mais personnellement, je suis persuadé que l'on trouvera un vaccin dans l'année qui vient, va-t-on dire.
Bon, puissiez-vous être entendu, Axel Kahn, aujourd'hui.
Entendu, être lucide, surtout.
Aujourd'hui, on évoque le confinement et ses conséquences. Alors, première conséquence, bien entendu, la possibilité de ne plus contaminer les autres. Mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients, parfois des inconvénients sévères au confinement. Et on évoque notamment la possibilité pour certains malades d'être traités, je veux dire des malades qui ne sont pas atteints par le coronavirus. Vous présidez la Ligue contre le cancer. Est-ce que vous avez des inquiétudes pour les malades du cancer, pour ceux qui aujourd'hui devraient être diagnostiqués, pour ceux qui aujourd'hui suivent un traitement ?
Nous avons d'immenses inquiétudes et à dire vrai, la Ligue contre le cancer s'est mobilisée très tôt, avant tout le monde, pour justement essayer de répondre à ces inquiétudes concernant les malades souffrant de cancer. Effectivement, j'ai eu l'occasion de le remarquer, ces malades ont à faire face de manière très déstabilisante à la triple peine. D'une part, ils ont l'inquiétude que vous avez d'être infectés par ce virus qui n'est pas une grippette, hein. On a dit à un moment donné, il y a plusieurs mois de cela, c'est rien du tout. Si, c'est une maladie qui peut être extrêmement sévère. Deuxièmement, ils savent qu'ils sont plus fragiles que le commun des mortels. Et troisièmement, du fait de l'extraordinaire surcharge qui existe des systèmes de santé. Et également, du fait des efforts que l'on fait pour éviter qu'ils ne soient surinfectés. D'autant plus qu'ils sont fragiles. Ils ont peur qu'on baisse les bras quant au traitement de leur cancer, la triple peine. Et donc, très tôt, dès le 8 ou 9 mars, nous avons mis au point une cellule médicale recevant les appels et on a reçu des centaines et des centaines d'appels de malades atteints de cancer qui étaient totalement désorientés, parfois totalement paniqués, des situations totalement abominables. Dans l'ensemble, on a réussi à tenir les deux fers au feu, c'est-à-dire d'une part protéger ces personnes fragiles d'une infection par cette maladie qui les aurait plus affectées que le commun des mortels, je l'ai dit, et d'autre part ne pas leur faire perdre de chance d'un traitement efficace, in fine, de leur cancer. Mais il y a des cas qui sont très difficiles. Un des cas très difficiles, c'est celui des interventions chirurgicales urgentes, parce que, évidemment, les salles de réveil des services de chirurgie étaient presque toutes mobilisées pour la réanimation très lourde, effroyablement lourde, des malades atteints des formes sévères de syndrome respiratoire aigu sévère. Et de ce fait, toutes les opérations, presque toutes les opérations, sauf quelques urgences extrêmes, étaient déprogrammées. Et donc, on s'est trouvé avec des malades qui allaient mourir de leur cancer si on ne les opérait pas très rapidement. Et on voyait la grande difficulté de les inscrire sur le tableau opératoire. Et là, plusieurs fois, plusieurs fois, et elle le fait encore aujourd'hui, la Ligue est montée au créneau pour débloquer la situation. Donc, dans l'ensemble, à travers la mobilisation du milieu, à travers l'action de la Ligue dans des cas très particuliers, pour débloquer des situations, je vais dire que pour ce qui est du traitement des personnes atteintes de cancer, le pire a sans doute été évité. Il y a un problème qui, lui, sans doute, n'est pas totalement réglé, c'est l'inhibition des personnes à consulter lorsqu'elles voient les concernant un signe inquiétant. Je vais vous donner deux exemples. Une femme sent une petite boule comme ça dans son sein. Ben, elle va dire, je ne vais pas aller voir mon médecin, de toute façon, il a autre chose à faire. Elle ne veut pas aller à l'hôpital, elle a peur d'être infectée. Donc, il y aura peut-être du retard dans le diagnostic de ce qui pourrait éventuellement être un cancer du sein. De la même manière, une personne a un grain de beauté et son grain de beauté, il a changé. Peut-être, ça peut être un début d'un mélanome, qui est une maladie, quand on ne le sait, ne soigne pas assez tôt, qui peut être redoutable. Eh bien, là encore, elle peut être dissuadée à aller voir son médecin, son dermatologue. Et ces retards au diagnostic peuvent avoir des conséquences. Donc, on essaye également de dire aux personnes, il y a des moyens, malgré la crise sanitaire, il y a des moyens pour que vous soyez diagnostiqués et que l'on prenne les décisions qui s'imposent.
Cela, en fait, pose des questions éthiques et il y a beaucoup de questions éthiques qui sont posées par l'épidémie de coronavirus. Alors, notamment, on a évoqué l'obligation avec des réanimations surchargées d'opérer un tri parmi les malades. Alors, tout cela a été largement relativisé, discuté par le personnel soignant. On a même entendu différentes fake news à ce sujet. Qu'en pensez-vous, Axel Kahn ?
J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie de médecin et de scientifique, et j'ai notamment, c'est curieux, les gens ne le savent pas, j'ai fait de la réanimation. J'ai fait pendant plusieurs dizaines d'années de la réanimation extrêmement lourde, et c'est un sujet que je connais bien. Dans la réanimation lourde, on a toujours pris des décisions. En effet, parce que la réanimation est lourde, elle est difficile à supporter. Et toujours, on a su que mettre en réanimation lourde des personnes qui n'avaient de toute façon aucune chance de la supporter n'était pas raisonnable et que cela s'apparentait à de l'acharnement déraisonnable. Prenons maintenant cette maladie. Je vous l'ai dit, dans les formes graves, la réanimation, lorsque les choses effectivement s'aggravent, elle est héroïque. Lorsqu'on est obligé, lorsque l'oxygène administré par voie nasale, par une sonde, ne suffit pas. Ça suffit pour Boris Johnson et je m'en félicite pour lui. Mais si on avait été obligé de mettre Boris Johnson sous respirateur artificiel, j'espère qu'il s'en serait tiré. Mais il s'engageait dans une épreuve qui dure en moyenne plus de 15 jours, jusqu'à un mois, dans des conditions totalement héroïques, sous coma artificiel, en décubitus ventral, avec une obligation d'augmenter la proportion d'oxygène. L'oxygène a une toxicité pulmonaire et la mortalité, là, chez les sujets qui n'ont pas de facteur de risque, elle est considérable. Que voulez-vous que je vous dise ? Naturellement, on ne va pas entreprendre une réanimation de cet ordre chez une personne qui, au départ, est très affaiblie. Une personne qui a 85 ans, qui a encore toute sa tête, mais qui sera totalement incapable de supporter une telle réanimation héroïque. Alors, dans ces cas-là, il ne faut naturellement jamais abandonner cette personne. Il faut lui administrer de l'oxygène, lui donner tous les soins. Mais en effet, et même s'il n'y avait pas une presse aussi importante qu'à l'heure actuelle de la réanimation, ne pas la faire entrer dans un programme de réanimation héroïque, c'est simplement de la bonne médecine. Autrement, ça serait un acharnement totalement déraisonnable.
Et alors, justement à ce sujet, on a parlé de sédation de malades. Qu'en est-il, d'après vos connaissances, Axel Kahn ?
Imaginons une personne de 85 ans qui commence à avoir cette maladie. Au 7e, 10e jour, elle s'aggrave. Elle a des difficultés respiratoires. On lui met, il faut le faire absolument, de l'oxygène avec une sonde nasale. On augmente l'oxygène et malgré tout, cela ne suffit pas à réoxygéner son sang. Et cette personne, il n'est pas question de l'intuber, de la mettre dans cette réanimation, parce que, je vous l'ai dit, ce serait vraiment totalement déraisonnable. Elle a l'angoisse de l'asphyxie. Et alors, on ne peut pas la laisser comme ça. Ça serait totalement inhumain. On ne peut pas laisser des personnes mourir avec cette angoisse de l'asphyxie. alors il faut naturellement la sédater. C'est la simple et la pure humanité.
Et cela est fait donc aujourd'hui. Il y a d'autres questions éthiques qui vont se poser, Axel Kahn. On a par exemple entendu parler d'un certificat d'immunité qui serait demandé par certaines municipalités, peut-être à Paris par exemple. Comment c'est-vous ?
Oh, je crois que ça c'est une erreur. C'est un peu absurde. La Ligue, et donc le président de la Ligue nationale contre le cancer, honnêtement, prend aucune position de nature politique, vous l'avez compris. Moi, je soigne, la Ligue s'occupera aussi bien d'une personne malade qui vote pour le Front National ou bien qui vote pour Jean-Luc Mélenchon. Ça ne fait aucune différence. Mais cette mesure-là, elle a quelque chose d'absurde et ça ne sera pas possible comme cela, en réalité. On voit très bien qu'on est dans un excès de biologisation de la vie privée qui, même en période d'épidémie, n'est pas légitime, ça n'est pas réellement faisable. Il faut donner son certificat, certificat d'immunité, certificat de conformité, certificat... Honnêtement, c'est une espèce de vision de la personne dans laquelle on ne doit pas s'aventurer. Alors, je comprends bien, ça part de très très bonnes intentions. Il faut déconfiner, mais il faut que les gens se laissent rassurer. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on ait des mesures statistiques pour savoir au bout de combien de temps, effectivement, les gens qui n'ont pas présenté de symptômes, au bout de combien de temps, ils n'ont aucune chance d'excréter du virus, d'être contaminants, parce que si jamais ils ont été au contact du virus, de toute façon, des anticorps se sont développés, anticorps neutralisants, ils ne sont plus contaminants. Ce savoir-là, en effet, il doit être obtenu pour arriver à maîtriser correctement un confinement. Mais un traçage immunologique individuel de toutes les personnes, il est sans doute infaisable et, à mon avis, il a plus d'inconvénients de différents types d'ailleurs que d'avantages.
Alors, même question pour cette fois-ci le traçage social. On évoque une application qui permettrait donc de faire du traçage social sur la base du volontariat. Elle serait prête a priori le 20 avril. Qu'en pensez-vous, Axel Kahn ?
Sur la base du volontariat, cela peut très bien se concevoir. Parce que, en effet, qu'est-ce qui est important pour stopper une épidémie ? C'est ce que l'on a fait quand on a stoppé l'épidémie au Condamine, en Haute-Savoie. Ou même quand on a limité, tout compte fait, le foyer épidémique de l'Oise, vous vous le rappelez. C'est que, par l'interrogatoire, on a essayé de voir quels étaient tous les contacts, toutes les personnes en contact avec les personnes malades qui avaient été contaminées et qui développaient la maladie. Et on les a elles-mêmes isolées, on a vu quel était leur contact et on a stoppé l'épidémie. C'est ce qui a permis à la Corée du Sud de limiter considérablement l'épidémie. Mais ça, c'est difficile. C'était possible au Condamine de Montjoie parce que, ma foi, il y avait quelques dizaines de personnes à suivre. Mais dès lors que vous avez des centaines, des millions de personnes à suivre, on ne peut plus le faire. Et par conséquent, un traçage électronique avec son iPhone pour savoir tous les gens que l'on a rencontrés, si jamais il s'avère que l'on tombe malade, c'est quelque chose qui peut être épidémiologiquement extrêmement intéressant.
Et donc, c'est une possibilité que vous préconiseriez, Axel Kahn. Est-ce qu'il en existe d'autres ? Parce que aujourd'hui, on évoque le déconfinement. Quelles sont les voies possibles sur le plan médical et puis sur le plan éthique ? Quels sont les problèmes que ça va poser ?
Le problème du déconfinement, d'abord, c'est qu'il faut bien déconfiner. On a toujours déconfiné des épidémies. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une épidémie. Simplement, une remarque à ce stade-là. Nous ne sommes pas à la première épidémie, on se rappelle, on ne se rappelle pas, mais j'ai parlé de la grippe espagnole, et puis même il y avait la grippe de 68 qui a été également relativement mortelle, etc., etc. Cela étant dit, on vit, je ne sais pas si tout le monde s'en est rendu compte, on vit un phénomène, un épisode qui est totalement exceptionnel. C'est la première fois dans l'humanité que l'on vit cela. C'est la première fois dans l'humanité que pour faire face à une maladie infectieuse, la moitié ou la grande majorité du globe est confinée. Ça ne s'est jamais vu, jamais vu. Et comme il s'agit d'un épisode, d'un phénomène totalement extraordinaire au sens premier étymologique du terme, il faut penser effectivement la fin de cet épisode extraordinaire. Alors, le grand danger en réalité, c'est surtout celui des décontaminations venues de l'extérieur. S'il y a un confinement extrêmement important, je le dis souvent, le virus, il ne vit pas en dehors des personnes. Et si les personnes sont confinées, ça sera un confinement d'au moins 6 semaines. Si les personnes sont confinées au moins 6 semaines, qu'il n'y a plus de nouvelles contaminations, etc., etc., le virus, il ne sera pas là à nous attendre, à un coin de rue, assis sur un banc ou bien sur une fleur que l'on va respirer. En revanche, évidemment, la France n'est pas une île, dans laquelle aucun navigateur ne peut aborder une île avec une population isolée. Et en permanence, il y a des échanges. Et en réalité, il y a des régions du monde où l'épidémie continuera de se développer. Et donc, les risques de surcontamination sont extrêmement importants. Et c'est ce à quoi il faut vraiment faire attention. En d'autres termes, je pense que l'on va s'orienter vers un déconfinement in fine après 6 semaines, 8 semaines, si vous voulez, de confinement, mais pendant assez longtemps, une extrême attention pour limiter les risques de recontamination venant de foyers extérieurs où l'épidémie continue de se développer avant que la vaccination n'apparaisse. Et j'appelle de mes voeux la vaccination.
Mais comment imaginer cela, sachant que l'une des spécificités du coronavirus, c'est d'être une maladie qui, parfois, ne provoque aucun symptôme chez les gens qui sont porteurs du virus, Axel Kahn?
Alors, en intérieur, c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que même quand le coronavirus ne provoque aucune maladie, il provoque une réponse anticorps et des anticorps se développent. Je veux dire, si j'ai été peut-être ai-je été atteint, je ne le sais pas, j'ai pas été malade. Et si j'ai été atteint il y a un mois de cela par le coronavirus et si j'ai fait une forme asymptomatique, il y en a sans doute beaucoup, peut-être que 50% des formes sont asymptomatiques, j'aurais développé des anticorps et je serais non contaminant. C'est-à-dire qu'au terme d'un long confinement, il n'y a plus de risque de ce point de vue-là, voyez-vous.
Et donc, sur le plan de la population intérieure, comme vous dites, ça n'est pas grave, mais
disons que c'est maîtrisable. C'est maîtrisable et on est dans une situation que l'on a déjà rencontrée pour d'autres épidémies.
Et justement, cela pose le problème de l'ouverture des frontières ou de la manière dont on va faire pour accepter des populations qui viendraient d'ailleurs, qui pourraient donc conserver un foyer épidémique, en quelque sorte.
Oui, ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il y a toute une série de problèmes qui s'entremêlent. Il y a des problèmes qui sont sanitaires, épidémiologiques. Il y a des problèmes qui sont politiques et même de politique intérieure. Il y a des problèmes qui sont humanitaires. Il y a des populations envers lesquelles on pourrait être amené à abandonner tout ce qui nous reste, ça n'est pas fameux, de générosité les concernant. Et donc, oui, cela va être une difficulté redoutablement complexe à gérer.
Mais alors, c'est ça le problème en fait, c'est qu'une épidémie pose des problèmes éthiques qu'une maladie ne pose pas. Et donc, on va devoir à l'avenir trancher un certain nombre de questions pour savoir s'il est légitime d'avoir peur de l'autre. On imagine d'ailleurs que dans les contacts humains, il y aura beaucoup de méfiance lorsque le confinement va être levé.
Ce qui se passe avec une pandémie, donc une épidémie mondiale, et ce qui se passe avec cette pandémie de syndrome respiratoire aigu sévère, est très singulier quand on y réfléchit. C'est qu'il n'y a pas plus, on va dire, emblématique de la mondialisation qu'une pandémie. Elle se joue totalement des frontières. Le virus, il n'en a rien à faire. Il ne connaît pas les douaniers, il passe comme ça. On ne peut pas lui demander sa carte d'identité. D'un autre côté, la réaction à ce phénomène évidemment mondialisé, est un risque extraordinaire de repli sur soi. Et il y aura d'ailleurs, parmi les conséquences attendues, il y aura durablement une tendance au repli sur soi. C'est-à-dire une réponse à un phénomène mondialisé qui est une réponse en une certaine démondialisation. Rapatriement, évidemment, et ça c'est souhaitable, de fabrication de produits stratégiques, qu'il s'agisse des respirateurs, des masques, des produits pharmaceutiques ou autres, extraordinaires précautions pour accueillir des personnes de zones dont on n'est pas sûr d'un point de vue épidémiologique. Ça, c'est vraiment une des conséquences qui est importante. Il y en aura une autre, si vous me permettez, ce n'est pas votre question, mais comme dirait Georges Marchais, son épouse vient de décéder, donc j'utilise les mots de Georges Marchais, c'est ma réponse et mon évocation. Une autre conséquence qui va être extrêmement durable, c'est que l'appréciation de la réussite des nations va en être très profondément modifiée. Jusqu'à il y a peu, il y a 2-3 mois de cela, on disait volontiers l'Amérique de Trump est un immense succès économique, évidemment, avec les inégalités. Mmh. Mais pensez donc, 3,5% de chômeurs, c'est fantastique. Le cataclysme et le bilan de la pandémie de Covid-19 sera pire aux États-Unis d'Amérique que dans beaucoup, la plupart des pays du monde, parce qu'il y a eu un total effondrement des systèmes de santé, mmh. aggravé par la politique de Trump lorsqu'il a supprimé l'Obamacare. Or, quand on demande aux gens, les gens n'ont pas de soucis plus importants pour leur vie mmh. que de conserver la santé, parce que la santé est ce qui permet d'envisager tout le reste. Ça permet la joie, ça permet la fête, ça permet l'amour, ça permet d'être éduqué, d'étudier dans de meilleures conditions. Donc, la santé, bonne année, bonne santé, avant tout, la santé. Eh bien, les nations ne seront plus appréciées uniquement en fonction de l'augmentation de leur produit intérieur brut, en fonction même de leur taux de chômage. Ces nations seront appréciées quant à leur capacité de protéger de manière optimale leurs concitoyens. Et cette vision comme quoi la santé est uniquement un fardeau, un secteur de dépenses, un risque, c'est une vision qui, pour quelques années, va disparaître. Et ça, c'est bien, parce que la santé est la valeur de base permissive de l'essentiel de toutes les autres valeurs.
Merci beaucoup, Axel Kahn, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue contre le cancer.